Les îles sont particulièrement vulnérables face au changement climatique et à la hausse du niveau marin. Dans le cadre du programme Odyssée, les insulaires de l'île-Dieu, Ouvéa, Mayotte et Noirmoutier ont développé des projets collaboratifs permettant de suivre l'évolution de l'érosion côtière de leur littoral. Mathieu Ledeuf, maître de conférence en géographie, travaillant sur les risques naturels d'érosion côtière à Mayotte.
On implique les acteurs locaux, notamment les acteurs associatifs de Mayotte, sur ce projet. Donc là, nous, c'est les naturalistes de Mayotte qui ont une diversité d'activités. Notamment, ils suivent depuis très longtemps un site de ponte de tortue marine, qui est une espèce qui est en voie de disparition, qui est protégée. Et il y a ce qu'on appelle un hotspot à Mayotte. Donc un hotspot, c'est un lieu de référence, on va dire, pour les pontes, qui est très important, et donc qui est affecté par l'érosion côtière. Alors, il faut savoir que les tortues marines, pour se reproduire, la ponte des tortues se fait sur le haut de la plage. Donc, s'il y a moins de sable, bah, l'environnement pour la reproduction des tortues va être affecté, et comment potentiellement ça peut avoir des effets sur les populations de tortues marines. Donc nous, on a travaillé avec cette association-là, puis d'autres collègues, notamment Sophie Morisseau et Mathieu Janson, qui sont un peu les spécialistes, on va dire, en géomorphologie littorale, en suivi de pontes de tortues, justement sur cet endroit-là, comment sur l'érosion côtière, pour essayer de voir est-ce qu'il y a des interactions entre les problématiques d'érosion et la survie des populations de tortues. Ce qu'on voulait faire, c'était impliquer l'association. Comment qui fait le suivi actuellement du nombre de pontes de tortues, comment le nombre d'œufs, le nombre de montées de tortues sur l'île, enfin sur cet endroit-là de l'île. On voulait les former et les accompagner sur le suivi de l'érosion avec un protocole qui soit à la fois simple mais très précis. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a travaillé avec l'équipe de Nantes, et le dispositif Sentinel à travers les applications développées sur smartphone pour prendre des photographies de certains sites, qui permettent de faire un traitement qu'on appelle de la photogrammétrie, donc une représentation, une modélisation en trois dimensions à partir des photographies de l'endroit que l'on veut suivre. Et donc ça, on répète à une fréquence plus ou moins régulière, des prises de vue qui permettent de modéliser le même endroit et de comparer du coup d'une session à une autre, de voir les évolutions au centimètre près de l'endroit qu'on veut suivre. Et donc avoir une vision très précise de s'il y a eu du sable qui est arrivé ou s'il y a eu du sable qui est parti et en quelle quantité. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'érosion ou en tout cas les dynamiques sédimentaires sur une plage, elles sont très variables d'un endroit à un autre de la planète, bien sûr, mais au sein même d'une même île, on peut avoir des endroits qui sont plus stables que d'autres. Et donc là, en l'occurrence, c'est un site qui connaît une variabilité saisonnière qui est relativement importante, avec du sable qui part de l'extrémité ouest de la plage vers l'extrémité est, et inversement en fonction des saisons. Donc ça, on l'identifie, on peut le voir sur le suivi de l'érosion qui est mené depuis plus longtemps par les scientifiques. Donc c'est un site dont on connaissait un petit peu la dynamique. Et maintenant, là, ça va permettre sur des sections de cette plage-là, d'avoir une vision encore plus précise. Mais ça, pour avoir du recul et pour pouvoir analyser, ça demande de faire ce qu'on appelle des longues séries de mesures, et donc des séries temporelles de mesures. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on répète ça dans la durée. Donc là, sur 2 ans de levée, c'est un petit peu juste encore pour pouvoir commencer à tirer des conclusions à partir de ce suivi-là.
Est-ce que tu dirais que les problématiques des différentes îles du programme Odyssée Îles sont identiques par rapport à l'érosion côtière ou l'augmentation du niveau de la mer?
Quelle que soit l'échelle à laquelle on analyse le phénomène d'érosion côtière, sur les processus, on va dire, c'est toujours les mêmes agents qui vont être engagés, à savoir le vent, la houle, les courants marins, le sable des plages. Après, le sable, il peut être différent en fonction de la granulométrie, du poids du sable, enfin de l'origine en fait sédimentaire des sables. Donc tout ça, en fait, on va avoir un processus d'érosion qui est commun, mais qui va se traduire de façon différente en fonction de chaque site. Indépendamment, on peut donc voir ça à l'échelle de l'île même, mais également à l'échelle évidemment planétaire et des différentes îles. Et pour l'élévation du niveau marin, c'est un petit peu la même chose. C'est que on a un phénomène qui est commun à l'échelle planétaire, c'est-à-dire que on a une élévation globale du niveau de la mer, mais qui se traduit de façon différente en fonction des endroits où on se trouve sur Terre. Et donc ça, on va avoir par exemple à Mayotte en particulier, nous on a dans une configuration particulière, c'est que en mai 2018, le 15 mai 2018, on a eu une série de tremblements de terre très importants. On a eu ce qu'on appelle une crise sismo-volcanique, avec l'apparition à 50 km à l'est de l'île d'un nouveau volcan en sous-marin. Et donc ça, en fait, ça a amené l'île de Mayotte à des modifications brutales et très rapides en l'espace de 1 an et demi, où l'île s'est enfoncée, on appelle ça de la subsidence, s'est enfoncée de 20 cm dans l'eau. Donc en fait, on a eu ce qu'on appelle une élévation relative du niveau marin, alors là qui n'est pas lié au réchauffement climatique directement, mais qui donne à voir ce que le réchauffement climatique pourrait faire dans les années à venir dans d'autres sites, puisqu'on a eu une élévation de 20 cm en quelques mois. Et donc là, les collègues qui travaillent vraiment sur le suivi de l'érosion côtière sur différents sites sur l'île commencent à enregistrer justement les conséquences de cette subsidence sur Mayotte. Donc nous, on est dans une configuration un petit peu particulière par rapport à ça, où on a eu une accélération très rapide ces dernières années.
Mathieu, y a-t-il des jeux communs par rapport à ces problématiques du niveau de la mer sur les différentes îles du programme Odyssée, île Odyssée-E?
Alors oui, effectivement, on mobilise ce qu'on appelle des jeux sérieux dans le cadre du programme. Donc ça permet d'appréhender de façon plus ludique et plus immersive ces questionnements-là. Parce que c'est toujours des questions qu'on évoque, qu'on voit dans les médias, dont on entend parler. Mais c'est vrai que pour s'approprier les sujets et les contraintes en fait, qui peuvent s'exercer, c'est toujours mieux de prendre la place de celui qui doit faire. Et donc là, ça permet de toucher du doigt. Alors, évidemment, on ne va pas dans un niveau de complexité trop important, mais ça permet de toucher du doigt un peu ces questionnements-là et de rapidement se rendre compte qu'il y a la théorie et puis il y a la pratique. Par exemple, à Mayotte, comment on a utilisé le jeu dans le cadre universitaire auprès des étudiants, dans le cadre d'enseignement, de TD qui portait sur les questions de risque, justement. On l'a utilisé auprès des associations avec lesquelles on travaille pour former les animateurs de l'association à l'utilisation du jeu. On a travaillé, on a fait plusieurs parties en fait avec l'association pour les mobiliser à la fois avec le conseil d'administration de l'asso puis avec les animateurs de l'association. On parle du jeu Agir ou Subir qui a été développé en France métropolitaine par le CPIE du Cotentin et que on remobilise nous dans le contexte maoré. Alors ça, le but de la mobilisation de ce jeu-là, c'était aussi de voir si on pouvait l'adapter au contexte maoré parce qu'on a des spécificités évidemment territoriales et c'est un peu tout l'enjeu de la mobilisation de ces jeux-là, c'est voir comment on peut en faire des outils vraiment ancrés sur le territoire pour que ça parle le plus possible aux populations. Et donc c'est pour ça que l'on était dans les phases un petit peu préparatoires, en travaillant avec des acteurs que l'on connaît bien, donc soit nos étudiants, soit les associations partenaires du projet, pour essayer justement de voir quelles seraient les pistes d'amélioration, parce que du coup on fait un débriefing finalement à la fin de partie, pour voir ce que les étudiants ou les collègues en ont pensé, et puis voir justement quels axes on pourrait améliorer. Donc typiquement là, quelque chose un peu de représentatif sur le jeu, c'est que dans le cadre d'Agir ou Subir, on reconstitue le village traditionnel, donc avec l'église, la mairie et ce genre de choses. Bon, à Mayotte, on est sur une île où c'est la religion musulmane qui est présente, donc on pourrait déjà adapter les vignettes juste en mettant une mosquée à la place ou en mettant des habitats qui correspondent au modèle architectural sur place. Donc juste déjà dans l'environnement de jeu, on pourrait apporter quelques modifications. Et après, de façon plus générale, on est sur des contextes côtiers qui sont aussi différents, parce qu'on est sur des îles tropicales. Donc on pourrait mettre des mangroves, des récifs coralliens. Enfin, on pourrait essayer de mieux représenter l'environnement des joueurs pour que ça soit plus facilement appropriable finalement par les joueurs.
Après Mayotte, Pascal Dumas, maître de conférence habilité à diriger des recherches en géographie à l'Université de la Nouvelle-Calédonie.
Mes thématiques de recherche sont davantage centrées sur les problématiques de suivi du trait de côte et suivi de l'érosion côtière, gouvernance du littoral, gestion du littoral de manière un peu générale. En Nouvelle-Calédonie, on a plusieurs terrains d'études. On s'intéresse notamment justement à ces dynamiques sédimentaires et ces changements en fait qui sont très rapides au niveau des littoraux sur les différentes îles, notamment Ouvéa. Notamment, Ouvéa est étudié par de nombreux programmes de recherche parce que Ouvéa est considéré comme une île basse. Et dans ce cadre-là, il y a à la fois le fait que c'est une île basse et il y a surtout le fait qu'il y a de nombreux enjeux. C'est-à-dire que quand on parle d'enjeux, c'est qu'il y a des populations qui sont installées sur le bord de la côte et que forcément, avec l'élévation du niveau marin, due au changement climatique, ce sont les populations qui vont être impactées, hein, avec le recul du trait de côte qui est prévu dans les années à venir. En fait, on voit déjà les conséquences de cette élévation, parce qu'on a des portions en fait, du littoral qui ont disparu. Et il y a des, par exemple, au niveau d'Ouvert, il y a un cimetière où certaines tombes se retrouvent aujourd'hui dans la mer. Il y a des portions de route qui se retrouvent évidemment sur la plage. Donc je pense que les conséquences, on les voit actuellement. Et quand je parle d'années à venir, c'est qu'on sait très bien que vis-à-vis des scénarios d'élévation de niveau marin, a fortiori, ce qui va se passer d'ici 2100, hein, c'est au minima un mètre. Je pense que maintenant, la communauté scientifique, elle s'entend sur le fait qu'on aura au moins un mètre d'élévation au niveau marin. Et ça, c'est une mesure globale, hein, une moyenne globale, je dirais, à l'échelle de la planète. C'est vrai qu'on a l'impression que se dire un mètre, c'est rien du tout, en fait. Mais un mètre, ça peut avoir des conséquences sur l'emprise au niveau de l'intérieur des terres, qui peut être très importante, évidemment. Ce qui se trouve à l'intérieur des terres va subir, hein, bien entendu, les assauts de la mer. Ouvéa, c'est 3400 habitants et à peu près 130 km² de superficie. Je disais que Ouvéa ne peut pas disparaître, parce que je parle d'île basse, mais une partie d'Ouvéa, en fait, se situe à des altitudes beaucoup plus élevées. Le point culminant d'Ouvéa, c'est à peu près 60 mètres. Le point le plus haut, hein, c'est pas évidemment la moyenne. Et donc, bien entendu, ce sont les populations littorales, ceux qui vivent sur le bord de mer, qui vont être qui sont actuellement et qui vont être dans les années principalement touchés, hein, par les conséquences d'une érosion accélérée. Et dans ce sens, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il est aujourd'hui possible, et c'est maintenant qu'il faut le faire, de commencer à travailler sur ce qu'on appelle les scénarios d'adaptation. Et notamment dans les scénarios d'adaptation, il y a la possibilité de travailler sur la thématique du déplacement des populations vers des zones plus sécurisées, donc des zones en altitude. C'est facile de dire ça, sauf que, bien entendu, la problématique à Ouvéa, c'est le foncier. Ouvéa est constitué principalement de terres coutumières, c'est-à-dire que sur ces terres coutumières, la notion de cadastre privé, qu'on connaît en métropole, n'existe pas. Donc la population habite dans différentes tribus où il n'y a pas de cadastre en fait qui va déterminer la répartition des parcelles, hein, sur le territoire. Le foncier, la terre appartient à la tribu et évidemment il y a des délimitations entre les tribus et ces délimitations en fait elles sont pas basées sur un cadastre écrit enregistré, hein. Elles sont basées sur ce qu'on appelle des palabres. Donc, c'est-à-dire, le palabre, elles sont basées sur l'oralité, enfin, sur la notion d'oralité, où les gens de génération en génération, hein, se transmettent les limites de leur terre, en fait, quoi. Et donc, si je reviens à cette notion, aujourd'hui, les gens doivent discuter, doivent faire...
S'entendre,
en effet, sur le déplacement futur des populations qui vivent au bord de mer, vers l'intérieur des terres, donc vers de nouvelles terres, hein, qui sont déjà occupées par d'autres communautés. Voilà un exemple de type de stratégie d'adaptation vis-à-vis des conséquences du changement climatique sur le littoral.
Est-ce que ces différentes populations comprennent les risques et de ces changements climatiques ?
Là, voilà, tout l'intérêt du programme, et notamment du programme Odyssée Île et sur le chantier Ouvéa, c'est justement de communiquer, de faire de la sensibilisation pour une meilleure compréhension des risques côtiers et une meilleure compréhension du devenir, en fait, hein, d'Ouvéa lié à ces problématiques qui vont, bien entendu, concerner la bordure côtière. Et donc là, il y a la démarche est vraiment de sensibiliser, communiquer et impliquer les gens. Justement, on met en place des chantiers de gestion participative.
Est-ce que la population locale de Ouvéa se sent impliquée ?
Oui, bien entendu, la population locale d'Ouvéa se sent de plus en plus impliquée. Et je pense que justement, le rôle de ces programmes de recherche, hein, qui font de la sensibilisation telle qu'Odyssée Île est important, parce que c'est un vecteur de communication, hein, comme je le disais, sur une meilleure compréhension des changements à venir. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Dans le cadre d'Odyssée Île, par exemple, on a mis en place des partenariats avec un collège. Et l'objectif, hein, c'est évidemment de sensibiliser d'abord la population scolaire. la population scolaire. Ça me semble évident qu'il faut l'associer dès le départ, parce que c'est elle, évidemment, qui va par la suite...
Ce sera le futur recteur.
Ben voilà, exactement. Et donc, par exemple, ce qui se passe, c'est qu'on a un atelier où on fait de la mesure participative du trait de côte. Donc, on mesure les profils de plage et voir tout simplement, au niveau du temps, comment évolue la largeur de la plage, pour faire simple, quoi. Et ça leur permet, ça nous permet de faire de la sensibilisation sur justement les processus d'érosion, comment ça va se passer. Et puis eux, évidemment, en tant que public scolaire, ils diffusent après ce message dans les familles, au niveau de leur clan et au niveau des tribus, quoi.
Ces scolaires, ils sont bien enclins à ces problématiques. Par contre, les publics plus anciens, est-ce qu'ils se disent « Oh, ça passe ?»
C'est toujours plus délicat, en effet, de parler aux vieux. Et d'ailleurs, on les appelle comme ça, sur l'île. Ce sont les vieux, ce sont les sages, en fait. Je pense qu'il faut aussi comprendre qu'il y a toute une organisation, en fait, au niveau de la tribu, qui fait que le message, il peut être transmis à l'ensemble de la tribu, justement, quand on a le bon vecteur de communication, quoi.
Toutes les informations, dispositifs, ateliers participatifs, rapports en cours et à venir sont consultables sur odysseyeutoutenattaché.org.